Comment relocaliser avec Clémentine Autin, Aurélie Trouvé et Dante Sangiorgio.
On va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc, on va tous tenter de répondre à une question pendant cette table ronde qui est comment relocaliser. Nous à Tamatiba, vous imaginez bien quand on lutte sur les questions donc, de dérèglement climatique et que les transports, les déplacements sont un énorme enjeu en termes de gaz à effet de serre, enfin, émettent énormément de gaz à effet de serre et dans un contexte d'économie mondialisée comme aujourd'hui. Il est nécessaire pour nous de relocaliser. Et en plus, quand on parle des alternatives, contrairement à ce que l'avait dit Margaret Thatcher dans les années 80, comme quoi il n'y avait pas d'alternative au système libéral, nous répondons si. Et face aux délocalisations de l'économie mondialisée qui est organisée aujourd'hui, il y a une alternative, c'est la relocalisation. Et pour ça, je ne vais pas faire un long débat, mais voilà, bon, c'est pour ça que pour nous, le changement, c'est dans les alternatives territoriales qui se fait, c'est dans les collectivités territoriales locales avec les citoyens. Et si on transforme notre environnement le plus proche, on transforme l'imaginaire des gens. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, de la pratique à la conscience, en changeant nos pratiques locales, en changeant notre environnement local, en fait, on change de système. Et pas le climat. Pour en parler aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui sont donc autour de moi. Déjà à ma droite, il y a Clémentine Autin, qui est journaliste et députée. Qui va en parler. Aurélie Trouvé d'Altac. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de donner plus pour cette émission. Et Dante Edme Sangiorgio, ça va, j'ai bien prononcé. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore acheté le programme Bouillabé, un programme vraiment sur la question climatique que propose Vici ici et ailleurs, je vous invite à regarder dedans parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique et plein de types de souveraineté et la relocalisation. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à l'acheter, en plus ça nous soutient. Bon, je ne vais pas durer très longtemps, place donc aux orateurs. Déjà Clémentine et Aurélie, donc on a une petite question à vous poser, c'est par rapport à cette économie libérale, il y a eu des batailles qui ont été menées sur le TAFTA, le CETA, et donc Clémentine, surtout, il me semble que vous avez mené une bataille à l'Assemblée à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en parler, Mr. Micro.
Bonjour à toutes et tous. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être là. Très, très heureuse que j'ai répondu favorablement tout de suite, parce que il me semble que la mobilisation qui existe autour d'Alternatiba et des différentes mobilisations sociales, citoyennes, du tissu qui existe sur tout notre territoire pour essayer de penser l'économie autrement et de le faire vivre dans la pratique, sont des points d'appui absolument décisifs si on veut modifier l'économie réelle et si on veut demain, si on gagnait les élections, si une majorité progressiste et écologiste gagnait les élections, elle ne pourrait mener à bien la transition énergétique et le changement de modèle de société qu'à la condition qu'il y ait partout, dans les têtes et dans les pratiques, déjà quelque chose d'enclenché. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est absolument décisif qu'il y ait ce lien et qu'il y ait ces pratiques concrètes. Alors, je vais commencer par le CETA, mais je voudrais ensuite dire quelques mots sur les défis de la relocalisation, parce que je pense que c'est un défi contemporain majeur et même un fil à partir duquel, qui engage, si j'ose dire, différents secteurs, politique internationale, la question des territoires, le sens du travail. Enfin, je pense que derrière cette question, en fait, il y a vraiment beaucoup d'autres questions. Mais je réponds à ta problématique et à ta question concrète. qui concerne la bataille qu'on a menée contre le CETA, étant entendu que le CETA est un traité de libre-échange avec le Canada, mais qui est un premier traité de ce type bilatéral, qui inaugure une nouvelle ère de traités de libre-échange, puisqu'on en a une foule qui sont en cours de signature ou qui vont être signés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le GEFTA, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais malheureusement, elle est enclenchée, elle est longue. Donc, ce sont des traités dits de nouvelle génération et qui impliquent une chose, à mon avis, majeure, qui est d'intensifier les échanges commerciaux au moment où notre conviction est qu'il faut, au contraire, calmer le jeu et essayer de penser la relocalisation de l'économie. Donc déjà, par rapport à la question qui nous est posée, voilà un traité de libre-échange qui n'a qu'une obsession, libéraliser les économies, et qui ajoute à cette espèce de concurrence libre et non faussée qui, à mon avis, dessert surtout les populations et sert les appétits du capital et des grands groupes. Alors la bataille, voilà comment on l'a menée, elle est arrivée très tôt puisque le gouvernement, en dépit de la promesse d'Emmanuel Macron qui avait dit « je regarderai cette affaire de CETA, s'il n'est pas compatible notamment sur le plan environnemental, eh bien on reviendra dessus », avait-il annoncé au moment de la présidentielle. Les promesses n'engagent décidément que ceux qui les écoutent. Donc on arrive, on a été élu en juin, nouvelle assemblée, et tout début septembre, il convoque un comité de pilotage. Il s'est... Jean-Baptiste Lemoyne et Brune Poirson, donc deux ministères, un sur le commerce, un autre sur l'environnement, qui joignent leurs forces pour réunir un panel d'organisations, alors des ONG environnementales, hein, ça c'est sûr, le MEDEF, les syndicats, la CGT aussi. Oui, non, c'est intéressant le tour de table. Donc, des, bon, censés être représentants tous de la société civile sur ce CETA. Et ils avaient commandé un rapport que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le rapport dit Schubert, avec un comité d'experts censé être indépendant et qui, en effet, remet un rapport qui met en cause le CETA sur pas mal de choses, et notamment les tribunaux d'arbitrage, mais aussi sur les questions environnementales, en expliquant que ça va quand même être compliqué d'être conforme aux engagements qu'on a pris à la COP21 et d'appliquer ce CETA. Donc c'est une série de mises en garde dans le rapport, je vous épargne le détail, mais une série de mises en garde. Et là, les deux secrétaires d'État se trouvent dans une salle où la colère est assez forte, vraiment, en dépit du MEDEF, hein, qui a expliqué qu'il ferait la promotion du CETA, mais très ouvertement, qu'il ferait la promotion du CETA, mais autour de la table, y compris la FNSEA, mais pour d'autres raisons, était assez en colère, mais tout le monde était très en colère. Bon, qu'à cela ne tienne, on fait la réunion, les secrétaires d'État n'arrivent pas à s'en sortir, et notamment Brune Poirson, qui est complètement désarçonnée devant cette salle qui lui hurle dessus, en disant « enfin, vous ne pouvez pas appliquer, vous avez les mesures, le rapport Schubert ». Et quelques jours après, entre en vigueur, de façon dite provisoire, le CETA, c'est-à-dire le 21 septembre. Donc rien à secouer de ce qui a été dit dans ce comité de pilotage, le CETA rentre en application, c'est-à-dire que 90% de ce qu'il y a dans le CETA est en application de fait. Ça, c'est le 21 septembre de l'année dernière. Suit ensuite, en commission des affaires étrangères, moi je suis en commission des affaires étrangères, on reçoit M. Moscovici, qui représente donc là l'Union européenne, et je lui pose la question. Je lui dis, enfin quand même, normalement, les traités de ce type doivent être approuvés par les parlements nationaux, et le Parlement français n'a pas été sollicité pour un débat et un avis sur ce CETA. Et je lui dis, premier problème, mais ça à la limite, c'est pas lui qui fait l'agenda du Parlement, donc on avait déjà hurlé contre le gouvernement, etc. Mais au moins, je lui pose une question, je lui dis, mais si le Parlement français s'oppose au CETA, est-ce que le CETA s'arrête de s'appliquer? Et là, je vous jure, il y a la vidéo, Moscovici nous explique que, en fait, le CETA va continuer à s'appliquer de façon provisoire. C'est-à-dire qu'au fond, même si le Parlement français votait contre le CETA, eh bien, ça s'appliquerait. Alors, quand on demande à tous ceux qui regardent dans le détail les mesures juridiques, on n'arrivait pas à avoir de réponse. Mais Moscovici dit ça. Alors, évidemment, comme il le dit, la vidéo circule. Donc, après, il explique que non, c'était pas ce qu'il voulait dire. Enfin, la réalité, il a été assez honnête à ce moment-là. Ça s'applique, même si le Parlement français s'y opposait. Enfin bon, quand on a connu le traité constitutionnel européen, qu'on fait un référendum, qu'on dit non et que malgré tout les traités s'appliquent, c'est vrai qu'on n'est plus malheureusement à ça près. Donc du coup, on était très en colère et on a utilisé notre niche parlementaire de la France insoumise parmi nos 5 propositions. C'est une niche, c'est-à-dire pendant une journée, c'est nous qui faisons l'agenda de l'Assemblée. Et nous avons introduit, notamment avec Mathilde Panot, qui est une de mes collègues, toutes les deux, on a porté la proposition commune d'un référendum sur le CETA, de proposer un référendum. Il n'y a pas eu gain de cause dans l'Assemblée, même si, en réalité, sur les bancs de la droite, une partie est pour. Toute la gauche est à peu près maintenant au cordeau là-dessus, encore que, je le dis, chez les socialistes, c'était un petit peu compliqué parce que c'était un certain nombre d'entre eux qui avaient négocié auparavant le CETA, donc c'était un peu compliqué pour eux de... Bon, j'ai l'impression qu'ils recommencent à trouver vaguement le chemin. Enfin bon, bref, passons, c'est une incise qui n'est pas forcément utile. Bon, on cherche à rassembler. On a évidemment le groupe communiste qui est tout à fait d'accord pour ce référendum, des socialistes qu'on peut convaincre, mais y compris à l'intérieur de la majorité parlementaire, il y a quand même des voix qui se sont élevées, des inquiétudes qui se sont exprimées assez fortement et qui ont mis d'ailleurs mal à l'aise le gouvernement et une partie de la droite qui pense que c'est quand même correct de demander au peuple son avis sur la question. Donc on n'a pas réussi avec ça, donc on a continué, hein, vous inquiétez pas, puis on est sur le pied de guerre. Ensuite on a eu une séance absolument incroyable, c'est le gouvernement a demandé un rapport à un institut qui nous a été présenté comme indépendant sur les effets du CETA, puisque maintenant il s'applique. Donc quels sont les effets du CETA? Et là on a reçu donc cet institut qui est venu devant la commission des affaires étrangères, asseyez-vous bien, à huis clos. Toutes les commissions ne sont pas à huis clos, mais celle-ci était à huis clos, nous présenter le rapport. L'institut indépendant, en fait, rassurez-vous, le directeur de cet institut est nommé par le Premier ministre, donc c'est pour dire si l'institut est indépendant, et ils nous ont présenté les résultats du rapport, tout va bien, tout se passe bien, et je pose la question quand même sur l'impact sanitaire et social et environnemental. Sanitaire, social, environnemental. Et là, les personnes du rapport me disent « Ah non, mais ça ne rentre pas du tout dans le champ d'application de l'étude. » Véridique, hein, je vous jure, on vit des moments... Enfin, non, mais ça, c'est pas, on ne peut pas vous dire. Et alors, sur l'environnement en particulier, c'est impossible parce que, vous voyez, nous, on travaille sur une zone. Donc, vous voyez, imaginez donc, la zone circonscrite Canada-France. Et or, l'impact, évidemment, dépasse cette zone. Et ça, on ne peut pas vous dire, du coup, quel est l'impact sur le climat, par exemple. Ce n'est pas possible de vous expliquer ça. Donc, ça a été quand même une bonne catastrophe. Ensuite, on est revenu au comité de suivi, où là, Brune Poirson, chargée de l'écologie, a disparu de la circulation, ce qui était quand même un signe assez intéressant, il ne restait plus que M. Lemoine, et la discussion avec le même comité a été effroyable, parce qu'au fond, il nous a expliqué que tout allait bien, qu'on aurait des rapports, que le Parlement serait sollicité probablement après les élections européennes, nous a-t-on dit, du côté gouvernemental. Mais quand j'ai demandé à M. Lemoine si ce serait après les élections européennes, il m'a dit cette phrase unelle, mais il m'a dit non, ce sera quand on aura tous les outils du rapport, de tous les rapports qu'on va faire, pour que les parlementaires aient vraiment un avis très aiguisé sur l'impact du CETA. Vous verrez, je vous paye en mille, les résultats de ce rapport tomberont après les européennes. N'ayez pas de doute avec ça. Je ne crois pas qu'ils aient envie de se payer un débat sur le CETA avant les élections européennes. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que ce sont des débats qui ont l'air extrêmement techniques. Vous savez que ce sont des traités qui font des pages et des pages et des pages et des pages, qui ont des voilà, mais qui en réalité dans ces pages et ces pages et ces pages et ces pages, il y a des éléments qui sont très concrets et qui concernent notre vie quotidienne. Parce que c'est une histoire. J'ai été trop longue, c'est ça ? Bon, alors je fais très peu, mais je pense qu'Aurélie va raconter dans le détail. Mais c'est juste pour dire que, en réalité, ce sont des normes sociales et environnementales qui vont être à la baisse. Et c'est le libéralisme économique et le privé qui va avoir la main jusqu'à ces maudits tribunaux d'arbitrage. Il faut comprendre que les tribunaux d'arbitrage, et je m'arrête là-dessus, c'est notamment le fait que des grands groupes pourront porter plainte contre des États s'ils estiment que des législations leur sont défavorables. Vous mettez le doigt là-dedans, je vous assure, il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus de politique environnementale possible. Donc Aurélie va parler sans doute du contenu, mais je veux vous dire que nous mènerons la bataille jusqu'au bout et qu'il va falloir trouver une stratégie qui est une stratégie collective, parce que ce n'est pas simplement à l'Assemblée qu'on va gagner, c'est parce qu'on aura une mobilisation citoyenne à la hauteur du défi et d'expliciter. On a réussi à expliquer le TCE au grand public, au grand monde qui s'était mis dans le texte, je pense qu'on peut le faire avec le CETA.
En fait, Clémentine n'a pas fini parce que là, elle a parlé des batailles qui sont menées. Mais là, on est pour parler de la relocalisation aussi.
Okay.
Et du coup, Clémentine, quelle est ta vision de la relocalisation? Est-ce que vous en avez parlé aussi
en tant que, donc, que personnel politique, en tant que député et ailleurs. Voilà, donc c'est, ta vision est la bienvenue.
Merci beaucoup. Oui, donc je voulais aussi, pas rester que sur le CETA, mais dire évidemment un mot sur les défis en termes de vision de société et donc de politique alternative qu'implique cette relocalisation nécessaire de l'économie, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça touche à des domaines très vastes. L'environnement, on le sait, mais aussi la question de l'emploi et de l'emploi et des savoir-faire, des métiers. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du travail, avoir un travail, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle du contenu du travail, de comment se fait le travail, le sens au travail. Je pense que c'est une question fondamentale avec la notion de savoir-faire, parce qu'on est dans une société qui perd totalement les savoir-faire professionnels. On le voit bien pour l'artisanat, mais en réalité, c'est vrai pour des tonnes de métiers avec cette logique d'ubérisation et de sous-traitance également qui maltraite. C'est un enjeu de santé publique, ça c'est clair, je crois qu'on le voit de plus en plus, et d'ailleurs je crois que le sujet de la malbouffe devient un sujet populaire majeur sur lequel il faut qu'on arrive à s'appuyer. Ça touche à la qualité de vie et ça touche, et j'y tiens, à la question du développement des territoires. Et ça, il faut qu'on mette aussi le paquet là-dessus. Donc en relocalisant, je pense qu'on essaie de redonner du sens à être ensemble, à faire société, et du sens à ce vers quoi on a envie de tendre. C'est une logique qui vise à rehausser des normes de protection. Je pense par exemple à la consommation, puisque les gens finissent par être aujourd'hui, et ils ont bien raison, extrêmement inquiets de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils prennent comme médicaments, de l'impact du lieu dans lequel ils travaillent. Enfin, je veux dire, c'est une préoccupation qui est une vraie préoccupation, et donc il faut bien qu'il y ait des normes, des protections là-dessus. Et ça me paraît être un enjeu de masse, un enjeu majeur. Et par ailleurs, tout ce qui va avec, hein, c'est tout ce qui va avec, touche aussi au protectionnisme solidaire, qu'il va falloir qu'on décortique bien. Parce que c'est un enjeu sur les taxes, les normes, les importations. Je pense qu'Aurélie en parlera. Donc ça, ce sont des mécanismes qui permettent de protéger notre économie. Mais je crois qu'on a aussi un enjeu qui concerne la non-agressivité sur les économies des autres. C'est-à-dire que le développement qu'on veut, c'est sortir de la concurrence. C'est de ce point de vue internationaliste, au sens où ce qu'on veut, c'est une logique de solidarité, de coopération, et non pas une logique de concurrence et de domination. Parce qu'il y a toute une série de pays qu'on dit être en voie de développement, mais pour qu'ils soient en voie de développement, même s'ils pouvaient se développer autrement que d'autres se sont développés, ça serait pas mal, il faut aussi qu'ils puissent avoir des moyens de façon plus autonome. Et je crois que cet enjeu, il touche aussi à la façon dont on va construire un monde non seulement plus juste, mais aussi un monde de paix. Parce que la question de la paix, elle touche assez à ces affaires économiques entre les différents pays, les différentes nations, et donc à la structuration internationale. J'ai parlé tout à l'heure, et je vais y revenir, sur la question de la qualité de vie et du développement des territoires, parce que le droit à la ville, la question du droit à la ville, qui a été pensée notamment par quelqu'un qui s'appelle Henri Lefebvre, et depuis qui a été pas mal repris, est souvent opposée au fait à la campagne, je sais pas comment on peut dire ça, mais comme s'il y aurait une opposition en fait entre les deux. On serait soit du côté du droit à la ville, soit du côté des agriculteurs, de la vie à la campagne, du grand air, etc. Ceci est une dichotomie totalement, totalement erronée. Parce que le droit à la ville, c'est justement dire que partout sur le territoire, les gens doivent pouvoir avoir un hôpital pas loin, des lieux de sociabilité, aller pouvoir s'acheter son journal, à manger, etc. C'est ça, le droit à la ville. Donc c'est bien un enjeu de comment on répartit sur le territoire, comment on sort de la logique des grandes mégalopoles, et on donne à tout le monde cet accès-là. Je vous assure, ça change totalement la vision de la ville. Et là où ça ne s'oppose pas, je vais vous donner un exemple concret, qui est la bataille qu'on mène sur Europa City. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, c'est un projet qui est à côté du territoire où moi je suis élue, je suis en dessous de Roissy, sur Sevran, Villepinte et Tremblay, et de l'autre côté de l'autoroute, il y a donc des terres agricoles qui doivent être préservées. Donc on est dans la métropole, hein, vous voyez, dans la métropole francilienne, on est en périphérie, mais enfin on est quand même vraiment dans la métropole, et là il y a des terres. Et il y a un gros promoteur qui a décidé d'y installer un complexe commercial énormissime. Et dans ce complexe commercial, ils avaient même pensé, ils ont renoncé maintenant à cause de notre mobilisation, à faire des pistes de ski en Ile-de-France. Ils ont renoncé. Non mais vous voyez, on partait de haut. Mais à part ça, c'est des hôtels, du commerce et les terres agricoles qui sont fertiles, etc., dehors. Et bien là, typiquement, le droit à la ville, on peut le conjuguer avec la préservation de ces terres, avec un projet, puisque d'autres ont proposé un projet qui s'appelle Karma. Et ce projet, c'est de faire une économie circulaire sur ces friches, qui sont énormes, et d'imaginer qu'on pourrait y faire de l'agriculture, du recyclage, un lieu de formation sur les métiers de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, d'avoir un lieu qui soit un lieu utile pour les habitants, qui ait du sens, qui soit au cœur de la ville. Et donc là, on mixe, au contraire, dans une logique de développement qui a tout à fait du sens. Il me reste 2 minutes, donc je vais vite. Mais évidemment, pour mettre tout ça en route, on a besoin d'affronter le pouvoir du capital, le monde de la finance, et je crois qu'André Gortz est très utile pour nous pour penser ce lien entre capitalisme, libéralisme économique et préoccupations environnementales, qui pour moi ne touche pas que à la préservation de la planète ou au climat, qui touche aussi au sens, je tiens à ça, hein, c'est-à-dire aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, pourquoi on préserve, pourquoi on travaille, et je crois que c'est plus profond comme projet politique que simplement sauver la planète, même s'il faut sauver la planète, on est bien d'accord. Ensuite, il faut sortir de l'austérité budgétaire, parce que tant que vous êtes dans l'austérité budgétaire, vous ne pouvez pas avoir d'implication pour justement préserver les communs, investir dans la transition énergétique, etc., etc. Et vous devez mobiliser l'État, et je terminerai là-dessus, mobiliser l'État, mais aussi toute l'économie. Je tiens à ça parce que le défi, à mon avis, qu'on a, il n'est pas simplement de dire le public va investir et puis reste bien au privé à faire ce qu'il a envie de faire. Il faut que toute l'économie, privée ou publique, tourne vers ces défis-là. Donc il y a une impulsion de la puissance publique qui est indispensable, sans laquelle on ne peut rien. Mais si vous n'avez pas une mobilisation citoyenne et une implication de toute l'économie, je pense en particulier aux TPE et aux PME, qui sont des clés, si on veut, cette transition, ce changement de modèle de développement. C'est clé. Donc la puissance publique peut aider, mais il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient tournés vers ces objectifs qui deviennent des objectifs communs. Et de ce point de vue-là, je pense que tout ce qu'on est en train de travailler autour des communs, du bien commun et des communs, est à mon avis la clé pour véritablement basculer vers une société aux normes totalement différentes du libéralisme économique et de la règle d'or que veut Bruxelles.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On enchaîne avec Aurélie, donc Aurélie Trouvé. Donc toi, tu peux faire un petit retour peut-être rapidement sur la bataille que vous avez menée sur le CETA, mais surtout nous parler de comment relocaliser, quelle stratégie mettre en place pour aller vers la relocalisation de l'économie, et pas que de l'économie d'ailleurs.
Pour revenir rapidement sur le CETA, il se trouve que ce fameux rapport qui a été fait Schubert, j'avais été consultée dans ce cadre-là, on avait beaucoup d'espoir, et c'est vrai que leurs consultations étaient très diverses, et on était assez contents de ce que ça a donné, ce rapport. On l'a trouvé, en tout cas, qu'il y avait des critiques très justes dedans, et effectivement, le gouvernement s'est assis dessus. Deux gros effets de cet accord Union européenne-Canada, qui est donc un accord de nouvelle génération. Il y a quelque chose qui est assez classique dans les accords de libre-échange bilatéraux, c'est la baisse des droits de douane, mais qui va surtout impacter le secteur agricole, parce que pour le reste, il n'y a quasiment plus de droits de douane. Mais ça va être une catastrophe pour le monde agricole, à tel point que même la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, est contre, c'est vous dire, et c'est la première fois. Ça va induire une concurrence très forte avec une agriculture qui n'a rien à voir avec la nôtre. En tout cas, par exemple, en viande bovine, hein, ce sont d'énormes feedlots. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils engraissent leurs bêtes dans des feedlots de plusieurs dizaines de milliers de bêtes. Hein, c'est ça le Canada. Nourris avec du soja OGM qui est beaucoup moins cher. Ils ont le droit, par exemple, d'utiliser les farines animales dans leur alimentation. Ils ont plein de pesticides et de produits phytosanitaires dans leurs champs de soja OGM qui ne sont pas autorisés en Europe. Plein de variétés OGM, alors évidemment, en plus, qui ne sont évidemment pas autorisées à être exploitées en Europe, etc. Tout ce qui fait qu'ils ont des coûts de production de toute façon beaucoup plus faibles beaucoup plus faible qu'en Europe. Et qui va trinquer en premier lieu? Ben, c'est bien l'agriculture paysanne, hein, et c'est ça le problème. Et puis les consommateurs qui vont consommer de plus en plus des produits qui, en fait, ont des conditions de production avec des normes beaucoup plus faibles qu'en Europe. Donc c'est ça qui nous attend à travers la baisse des droits de douane, qui va aller à l'inverse de la relocalisation des activités agricoles, en l'occurrence. Mais c'est surtout aussi la baisse des normes. Et ça, c'est fait vraiment partie des accords de nouvelle génération à travers trois dispositifs importants. Le forum de coopération réglementaire, où il va pouvoir siéger dedans tout le business Europe et canadien. C'est-à-dire qu'en fait, avant même que les règles soient discutées au niveau européen, dans les institutions européennes, elles sont discutées dans ce forum-là. Donc, si vous voulez, les multinationales pourront avoir leur avis, donner leur avis avant même que commence le processus de discussion législatif, hein, c'est vous dire. Alors évidemment, les multinationales sont super heureuses de ce forum de coopération réglementaire. Business Europe, qui est un peu le MEDEF européen, est trop content de ça, parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à tout ce qui va se discuter qui peut les gêner. Hein. Deuxièmement, il va y avoir ce fameux mécanisme d'arbitrage investisseur-État, l'ICS, Investment Court System, qui va permettre aux multinationales, et ça n'a pas été remis en cause du tout, de poursuivre la puissance publique, c'est-à-dire l'Union européenne, les États, les collectivités locales, dès lors que de nouvelles règles leur apparaîtraient comme opposées à la libre concurrence et à leurs propres intérêts. Et ça peut aller très très loin. Je donne un seul exemple, hein, une multinationale de l'énergie américaine qui, dans un cadre comme ça, dans le cadre de l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, a poursuivi le Québec parce que le Québec avait repoussé l'exploitation des gaz de schiste sur son sol. Ça, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres, il y a des centaines et des centaines de cas qu'on connaît déjà dans des accords de libre-échange qui ont déjà ce mécanisme investisseur-État, et qui est un énorme moyen de pression. Parce que qu'elles gagnent ou pas ces multinationales, elles mettent la pression sur la collectivité locale, sur le pays, sur l'Union européenne, avant même que ne soient mises en œuvre les normes sanitaires, environnementales, etc. Donc c'est un énorme moyen de pression, et on connaît aujourd'hui, on a toute une littérature qui montre que c'est un mécanisme terrible de rabaissement de toutes les normes sanitaires, environnementales, sociales, etc. Et puis troisièmement, de toute façon, il y aura pression sur les normes, puisque, prenez l'exemple des farines animales, des OGM, des pesticides, etc., puisque ça, on va rentrer en concurrence avec des entreprises qui, elles, ont le droit peuvent avoir un abaissement de leur coût de production grâce à cet abaissement des normes. Évidemment, il va y avoir une pression énorme en Europe sur ces normes-là qui ont été abaissées côté Canada. Vous imaginez bien que le MEDEF dira « Ah ben regardez, les Canadiens, ils ont le droit de faire ça, 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 ça nous concurrence, alors baissez ces normes-là en Europe, vous comprenez ?» Il n'y a même pas besoin, de toute façon, de tous ces mécanismes réglementaires, forums de coopération, etc. C'est-à-dire que la concurrence elle-même va être un moyen de pression énorme sur toutes les normes. Sur toutes les normes. Voilà en gros ce à quoi nous prépare l'accord Union européenne-Canada. Il y a énormément d'autres, ça a été dit par Clémentine, énormément d'autres accords de libre-échange. Toujours est-il que on va continuer à mener la bataille. Il faut savoir qu'en France, on a une petite victoire grâce à la bataille qui a été menée par les mouvements sociaux, les mouvements politiques, etc. C'est que dans le Parlement européen, les Français, les députés français, ont voté en majorité contre ou se sont abstenus, alors que ce n'était pas du tout le cas un an avant, au moment du vote au Parlement. Alors évidemment, comme ce n'est pas le cas des autres pays, des autres députés, on a perdu in fine au niveau européen, mais la bataille qu'on a menée en France a été décisive pour ce vote-là, en tout cas en ce qui concerne les députés français au Parlement européen. Reste maintenant le vote qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, qui a été repoussé à l'année prochaine, enfin septembre prochain, en gros, fin d'année prochaine. Donc ça montre déjà, puisque ça a été repoussé, que le gouvernement se dit « oulala, il risque d'y avoir une pression citoyenne forte, il vaut mieux repousser après les élections européennes ». Et il faut surtout la mener, cette bataille, parce qu'il suffit d'un accord de libre-échange qui tombe pour remettre en cause quand même fortement l'ensemble des accords de libre-échange à venir. D'accord ? Donc c'est décisif qu'on arrive à arrêter un accord de libre-échange. Et alors Moscovici dit que si on votait contre, quand même il y aurait encore une mise en application provisoire. C'est pas ce que dit la Commission européenne. Nous, en tout cas, toutes les discussions qu'on a pu avoir des responsables de la Commission, de la DG Commerce Extérieur, qui négocie tous les échos qu'on en a juridiquement, c'est que s'il y a un Parlement qui vote contre, l'accord de libre-échange et la mise en application provisoire tombent. Donc, il faut surtout pas écouter Moscovici. Il faut mener la bataille parce que si le Parlement vote contre, il y aura un coup d'arrêt brutal au processus d'accord de libre-échange. Évidemment, Moscovici dit ça pour que cette bataille ne se mène pas, mais il faut absolument la mener. Donc voilà, rendez-vous dès maintenant, et puis surtout d'ici 6 mois, 1 an, pour qu'on arrive, par une pression citoyenne forte, par de relais à l'Assemblée nationale, à arrêter cet accord de libre-échange. Et juste une parenthèse, ne pas compter sur les Italiens. Je vais expliquer pourquoi. Légère parenthèse, parce que tout le monde dit « Oh, c'est bon, les Italiens, ils vont voter contre. » Que nenni. Ils ont annoncé que peut-être ils voteraient contre. Ce qu'on entend, nous, dans les couloirs, c'est qu'ils vont peut-être le négocier. Ils vont peut-être finalement voter pour, en négociant quelque chose en échange, devinez sur quoi ? Sur l'immigration. Donc, ne jamais faire confiance aux fascistes et à l'extrême droite dans la bataille contre les accords de l'immigration. Il me reste plus longtemps, donc je vais reprendre toute l'histoire de la mondialisation néolibérale. Pas du tout. Je vais arriver directement sur la question de pourquoi relocaliser et comment, parce que c'est les deux questions qui font le plus débat, et surtout la deuxième. Donc la première question, pourquoi relocaliser ? Un, parce que coût écologique des transports, et que vous savez que les transports commerciaux, c'est une grande part des émissions de gaz à effet de serre. Mais deux, surtout, je dirais la raison la plus importante, c'est que c'est la seule façon de connaître les conditions dans lesquelles on produit nos aliments, nos habits, les jouets, etc. La seule façon de savoir et d'avoir une main sur la façon dont on produit tout ça, c'est que ce soit produit le plus près possible. Et si possible en circuit court, et si possible avec des liens directs avec les producteurs. Parce qu'évidemment, quand par exemple vous mangez une viande qui a été alimentée par du soja OGM brésilien, ce qui est d'ailleurs le cas de quasiment toute notre viande qu'on consomme ici, qu'est-ce qui se passe ? Ce soja OGM, ce vaste champ de soja OGM, il a été épandu des pesticides qui ont eu des effets sur les travailleurs là-bas, qui ont eu des effets sur les paysans qui cultivent autour de ce champ OGM, ça a eu des effets sur l'accaparement des terres, par ailleurs, ça n'a même pas permis des profits, ça, il y a plein d'études qui le montrent, pour l'immense majorité des citoyens, parce qu'en général, ces multinationales qui sont implantées, par exemple, ces grands investisseurs sur ces champs de soja OGM, reversent leurs profits, enfin, ne versent quasiment pas d'impôts, et finalement, tout profit va dans leur poche, si vous voulez, ça ne va pas à la communauté en question au Brésil. Donc, si vous voulez, en plus, relocaliser, c'est empêcher des effets délétères, environnementaux, sociaux, etc., sur les populations dans le pays d'origine de ce produit. Je dis tout ça parce que quand vous êtes face à un Pascal Lamy ou un libéral, il va vous expliquer que, mais non, c'est génial la mondialisation, ça a profité aux populations là-bas, etc. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que cette libéralisation, elle est délétère, mais il y a aussi des historiens des historiens économiques qui montrent très bien que toutes les périodes de mondialisation néolibérale se sont en fait traduites par des augmentations des inégalités, à la fois dans les pays, et notamment dans les grands pays émergents qui exportent de plus en plus, c'est le cas aujourd'hui au Brésil, en Argentine, en Chine, etc. Donc augmentation des inégalités dans ce pays, et augmentation aussi des inégalités entre les pays. Et aujourd'hui, quand vous libéralisez, par exemple, les marchés agricoles, très concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez en concurrence un paysan burkinabé qui a des moyens de production manuels et qui produit à peu près 500 à 1000 fois moins qu'un agriculteur, moto-mécanisé, etc., du Nord. Donc c'est des différences de productivité du travail de 500 à 1000. Voilà ce qu'on met en concurrence quand on ouvre nos frontières et que soi-disant ça se fait au bénéfice des pays et des paysans du Sud, sachant que par ailleurs, ce néolibéralisme, c'est un néolibéralisme en trompe-l'œil, parce que chez nous, on a des aides massives aux agriculteurs, mais aussi à toutes nos entreprises. Donc c'est même pas du néolibéralisme, je dirais, pur jus, concurrence libre, libre, pure et parfaite. C'est en plus une concurrence en trompe-l'œil avec, un vaste dumping lié à nos subventions, et deux, avec constitution d'oligopoles multinationales qui font que, de toute façon, on n'est pas dans cette concurrence libre et parfaite. Donc en plus, ce néolibéralisme qui nous est vanté n'existe pas. Il est simplement un moyen aujourd'hui pour les multinationales, pour les plus riches, d'écraser un peu plus les citoyens de l'ensemble du monde. Et j'arrive à cette idée sur la relocalisation qui est que surtout, la façon de se démarquer de l'extrême droite sur cette idée de nous protéger, c'est que nous ne nous protégeons pas contre les Allemands, on ne se protège pas contre les Espagnols, on ne se protège pas contre les Africains. On se protège, nous, citoyens, face aux multinationales, qu'elles soient allemandes ou françaises. Parce que les multinationales françaises, elles ont tout intérêt à cette libéralisation commerciale. Donc nous ne sommes pas en train de parler des Allemands contre les Français. Nous sommes en train de parler des citoyens du monde face aux multinationales. C'est là où est la grande différence avec l'extrême droite, avec le populisme de droite, c'est que nous sommes des altermondialistes qui nous battons citoyens face à des multinationales. Et quand on se bat contre le CETA, on ne se bat pas les Européens contre les Canadiens, on se bat citoyens européens et canadiens contre les multinationales européennes et canadiennes. Raison pour laquelle d'ailleurs, on se bat dans le cadre d'une coalition française et européenne, mais aussi dans le cadre d'une coalition européo-canadienne. Et on a beaucoup de liens d'ailleurs avec toutes les ONG canadiennes, les écologistes canadiens, etc., qui eux-mêmes se battent contre le CETA. Alors, on a mis deux autres écueils à éviter. Pensez, alors je vais peut-être pas me faire des amis dans la salle en disant ça, mais tant pis. Pensez qu'on peut tout fonder sur des solutions locales. Moi, je pense que les solutions locales, elles sont absolument décisives. Que la multiplication des AMAP, des monnaies locales, etc., c'est un levier énorme. Mais ça doit permettre aussi, ça doit être un levier de transformation globale. C'est-à-dire que ça ne doit pas être réservé qu'à nous qui avons accès à ces transitions locales, ça doit devenir, la relocalisation doit devenir le mode dominant de développement de l'économie. Et pour ça, il faut changer aussi les règles au niveau national, européen et international. Donc il faut se servir de toutes ces solutions locales pour peser aussi sur les décisions à un niveau national, européen et international. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter, entre guillemets, de solutions qui sont absolument décisives, mais qui ne sont pas suffisantes. Je ne sais pas si je suis claire.
On est d'accord. On est d'accord.
Et troisième écueil qui fait que je n'ai pas eu toujours des amis là-dessus, on ne peut pas non plus ne se contenter que de droits de douane. C'est-à-dire que les droits de douane, ben, c'est pas... Non plus, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on met des droits de douane aux frontières françaises ou européennes qu'on va s'en sortir. Parce que le problème, c'est pas que de mettre des droits de douane, c'est de remettre en cause, alors, je suis désolée d'employer des grands mots, mais le capitalisme financier. Et que même si on met des droits de douane à la France, ça n'empêchera pas, par exemple, les grandes industries agroalimentaires de continuer à faire pression sur les normes sociales, sur les ouvriers, de continuer à faire pression sur les prix payés aux producteurs de lait, de céréales, ou que sais-je, et de s'asseoir sur toutes les règles environnementales. Donc ça veut dire qu'en France aussi, il y a énormément de choses qu'on peut faire dès aujourd'hui dans le cadre actuel, et qu'on ne peut pas seulement, en tant que gouvernement, dire tout ça est la faute de l'Union européenne ou de l'OMC, ou des accords de libre-échange. On peut aujourd'hui, au-delà des droits de douane, il y a la question du partage du temps de travail, enfin, t'as cité énormément de mesures, mais il y a aussi, par exemple, la question des conseils d'administration des entreprises. Par exemple, en Allemagne, ils sont allés beaucoup plus loin déjà que nous, alors, parce qu'on tape toujours sur les Allemands. Les Allemands, ils font aussi des choses, parfois, qui vont plus loin que nous. Par exemple, ils ont des règles sur les conseils d'administration qui vont un peu plus loin que nous. Nous, on est vraiment dans les plus mauvais de la classe. C'est-à-dire que la représentation des salariés, des usagers, etc., dans nos conseils d'administration, c'est peanuts. Il faudrait demander, un gouvernement pourrait tout à fait décider que tout conseil d'administration d'une entreprise doit être composé en majorité de représentants des salariés, des usagers, des écologistes, des collectivités locales, et qu'on interdit les délocalisations. Ça, on n'a pas besoin d'attendre une refondation de l'Union européenne ou de l'OMC. Hein. Donc c'est aujourd'hui même, un gouvernement peut le faire s'il en a la volonté politique. Donc tout ça pour vous dire que les droits de douane, c'est pas suffisant pour régler la question. Et je finis sur la question du protectionnisme. Bon, moi, j'aime pas parler de protectionnisme solidaire, je préfère parler de protection, tout court, je vois pourquoi on met « isme » à la fin. Comme j'ai trop 2 minutes, je vais dire ça très vite. Simplement, je vais reprendre ce que disait Clémentine, c'est qu'on a à la fois un droit de se protéger.
Ah, 15 minutes.
Un droit de se protéger, alors ça veut dire stopper les accords de libre-échange. Ça veut dire, par exemple, interdire tout import de produits qui auraient été traités dans des normes sanitaires environnementales qu'on refuse. Ça veut dire aussi, dans le même temps, le devoir. Il y a un droit de se protéger, mais il y a aussi un devoir de solidarité internationale. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, en même temps qu'on fait ça, et c'est là, moi, pour moi, les bases de l'altermondialisme, c'est qu'en même temps qu'on se protège, il faut aussi regarder ce que nous, on fait aux autres pays. Ça veut dire, par exemple, qu'on ferme nos paradis fiscaux où les très très riches des pays pauvres viennent implanter leur argent. Ça veut dire aussi qu'on se bat pour un droit international sur nos propres multinationales qui viennent accaparer les terres, par exemple, des pays du Sud. Ça veut dire qu'on se bat à l'échelon international pour un multilatéralisme complètement refondé. Et je finirai là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, en mon sens, l'altermondialisme n'a jamais été aussi nécessaire. Entre d'un côté Trump, les Trudeau au Canada, les Angela Merkel et compagnie qui sont pour une mondialisation néolibérale et de plus en plus autoritaire, vu qu'ils arrivent de moins en moins à l'imposer, et de l'autre, les Trump, les Orban et compagnie, qui proposent une mondialisation, une anti-mondialisation, en tout cas au service des multinationales, xénophobes et du repli sur soi. Et bien, il faut montrer qu'il y a une alternative à ça. Et je pense que la période est décisive. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'il n'y a pas que ces deux voies-là qui sont possibles et qu'on peut à la fois se protéger en tant que citoyen face aux multinationales et de l'autre, refonder, ne pas perdre l'objectif de cette solidarité internationale et de cesser la propre expansion de nos marchés au détriment des pays pauvres. Il ne faut jamais lâcher les deux et de mon point de vue, l'altermondialisme, dans cette période-là, doit absolument se renforcer pour faire renaître cet espoir-là. Voilà, merci.
Merci, Aurélie. Donc, maintenant, notre dernière intervention de la table rondante, cofondateur de l'OJCO. Donc le JCO qui est connu maintenant internationalement, enfin j'ai internationalement, mais bon, on va dire international hein, par rapport au pays, monnaie locale. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter justement cette expérience concrète de mise en place d'une monnaie locale et en quoi en fait cette monnaie locale aide justement à avoir des territoires plus souverains, plus relocalisés. Merci d'entrer.
Monsieur les Goulons de Boussière. Bonjour à tous. Alors oui, l'OJCO c'est une monnaie locale complémentaire. Nous on a lancé ce projet entre militants, donc des militants écologistes, des militants du développement local, des militants de la langue basque, en se disant que on avait vu ce qui se faisait ailleurs. On avait vu des monnaies locales naître en France et on a pour avoir échangé avec lors de forums avec des gens qui portaient ces monnaies. On s'est dit que c'est vraiment une bonne idée pour le territoire parce que le principe même des monnaies locales et écolocalisateur et intéressant au niveau écologique, économique et social. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé la monnaie locale comme un nouvel outil de développement territorial au service de la transition écologique, pour ne pas opposer justement économie et écologie. Je vais expliquer tout simplement comment ça marche à la base. Je pense qu'il faut bien commencer par ça. Donc il faut définir d'abord, dans une association qui crée monnaie locale, définir un territoire et des valeurs. un territoire, nous, on a défini le Pays Basque Nord comme le territoire sur lequel circulerait notre monnaie. Les valeurs, ça a été l'écologie, la solidarité et la défense de la langue basque, puisque c'est une langue qui, encore aujourd'hui, est en voie de disparition au Pays Basque Nord. Elle est encore en train de regagner des locuteurs. Donc il faut se battre pour qu'elle vive, pour que vive cette culture basque, comme vivent toutes les cultures dans le monde. Et donc c'est un combat mené ici pour notre culture, comme les autres mènent leur combat pour leur culture. Et voilà, ça a été les trois piliers fondamentaux de notre action. Et après, c'est posé la question du comment. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait pas de cadre légal quand on s'est lancé. On était en zone grise, c'est que les monnaies locales n'étaient pas encore reconnues par le législateur. Ceux qui se lançaient sous le couvert de titres de paiement. Alors, il faut savoir que les monnaies locales comme l'Eusko, le Sorgulette, la Gonette à Lyon, le Stuc à Strasbourg ou la Solante à Nantes ne sont pas des devises. Voilà. Ce sont des moyens de paiement. Donc on s'est lancé comme tel, en gros partout hein, en France, un euro peut être changé contre un Eusko, voilà, tout simplement. Un billet de 2 euros contre un billet de 2 Eusko, voilà, c'est une parité simple, un pour un. Et ce sont des moyens de paiement qu'on peut utiliser dans les commerces, sur les marchés auprès des paysans producteurs, voilà, au quotidien. Et c'est nous-mêmes qui avons imprimé les billets. On a fait des impressions de billets sécurisés, ça commence par ça. On a défini nos valeurs, notre territoire, on a imprimé les billets. Et puis on a commencé à rencontrer plein de gens. On a été voir des commerçants, des chefs d'entreprise. On a fait 20 réunions locales sur tout le Pays Basque pendant 6 mois. On est parti en voyage d'études à la plus grosse monnaie locale d'Europe, qui était le King Gower en Bavière à l'époque. La plus grosse en France, c'est Sorgulette à Toulouse. On a été aux réunions locales, on était une dizaine de bénévoles comme ça à travailler dur bénévolement. On a été à des réunions de toutes les monnaies locales de France pour échanger avec tous les porteurs de projets voir ce qui se faisait. On s'est nourri de tout ça. Et on a fait un avant-projet de monnaie locale qu'on a présenté au territoire, aux acteurs économiques, mais pas institutionnels, vraiment les commerçants, les entreprises, les habitants, on faisait des réunions locales. On n'a pas été voir la CCI, on n'a pas été voir les élus, on a vraiment travaillé sur le côté citoyen uniquement. Et de ça est né un projet qui a une popularisation du projet. Et on s'est lancé, après pas mal d'échanges, le 31 janvier 2013, avec 192 entreprises acceptant l'EUSCO et 800 particuliers. Ça, c'était au lancement le 31 janvier 2013. Alors, ça, tout simplement, les gens qui adhèrent, il faut adhérer à l'EUSCO, donc c'est une adhésion annuelle, hein, 12 euros pour l'année, ou 5 euros en tarif social. On adhère à l'EUSCO, et à partir du moment où on est adhérent, ça c'est une condition légale, on peut changer des euros en EUSCO. Alors, pourquoi ça se localise et comment? Des adhérents adhèrent de façon tout à fait libre et volontaire. Même si j'habite pas ici, les touristes peuvent adhérer, les enfants peuvent adhérer, vous pouvez tous adhérer aujourd'hui. Il y a des cabanes dehors où vous pouvez faire du change, adhérer, faire du change. C'est vraiment très très accessible. Et par contre, c'est un peu plus contraint pour les entreprises. Les entreprises, pour pouvoir accepter des paiements en EUSCO, doivent avoir leur siège social au Pays Basque. Du coup, à partir du moment où une entreprise accepte les paiements en EUSCO, elle a son siège social, donc elle est forcément locale, le chiffre d'affaires reste local. Et en plus de cette action, on va aller intrinsèque des monnaies locales, on a nous au Pays Basque rajouté des défis obligatoires. Deux défis à relever de façon obligatoire pour chaque entreprise qui rentre dans le réseau. Le premier défi, c'est d'utiliser au moins 3 produits locaux. Voilà, pour vraiment créer des filières courtes, mettre en relation les gens. Et le deuxième défi, c'est avoir une action pour la défense de la langue basque. C'est soit avoir un accueillement en basque, soit prendre un peu de cours de basque, il y a un petit module de 20 heures, remboursable par la formation professionnelle que les commerçants peuvent prendre s'ils le souhaitent, ou alors on leur met en place un affichage en bilingue, pratiquement, français basque. Voilà, l'idée est que tous les enfants qui apprennent la langue basque aujourd'hui à l'école puissent voir de la langue basque en dehors aussi de l'école, parce que c'est une langue qui est encore trop confinée dans les écoles et dans les foyers bascophones, mais pas encore assez légitime publiquement. Donc voilà, on est sur comme partout en Italie ou en Espagne, il y a beaucoup de bilinguisme. Voilà, c'est pas évident que ça puisse pas exister ici aussi. Donc voilà, on est dans cette idée-là de mise à équivalence. Et voilà, ça c'est les défis que doivent relever les entreprises. Et à partir de ça, tout part maintenant du consommateur particulier. Parce qu'une fois que moi j'ai des euros en poche, je les change en EUSCO. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais utiliser l'EUSCO, je vais devenir contagieux. C'est ça qui est intéressant. Parce que les gens nous disent toujours, mais moi je vais déjà à la MAP, je vais déjà à la COP Bio, je fais déjà des dons aux associations, je participe déjà à la relocalisation avec l'euro. Qu'est-ce que ça change de le faire en EUSCO? Mais en fait, ça change tout. Parce que quand on le fait en euro, le commerçant derrière peut acheter, le restaurateur peut tout acheter chez Metro ou Promo Cash. Il peut très bien acheter de la viande industrielle. Alors que quand on le paye en EUSCO, il va avoir des EUSCO qui vont s'accumuler dans son tiroir-caisse et au bout d'un moment, il va vouloir les utiliser. Il peut les changer contre des euros, mais nous, on lui prend 5% de commission et ces 5% sont assez dissuasifs, suffisamment en tout cas, pour qu'ils prennent l'annuaire des professionnels fournisseurs de l'EUSCO, il y en a plus de 300, pour qu'ils puissent derrière utiliser les escrocs et ne pas payer la commission de 5%. Et aujourd'hui, on est à 760 professionnels dans le réseau, plus de 3000 adhérents particuliers. Il y a aussi 16 communes qui ont adhéré, l'agglomération Pays Basque a adhéré également, et puis les offices de tourisme aussi. C'est une monnaie qui se fait dans des cercles de plus en plus larges. Et aujourd'hui, avec, comment dire, il y a, on va atteindre aujourd'hui 1 million de chevaux en circulation. On est parti à zéro il y a 5 ans. Aujourd'hui, on arrive à 1 million de chevaux en circulation. Et 56% des professionnels qui sont dans le chevaux ont pris au moins un nouveau fournisseur local. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un commerçant rentre dans le réseau chevaux, il accumule des chevaux. Et plus de la moitié, 56% actuellement, vont se tourner vers un nouveau fournisseur local. Ça peut être pour de la communication, pour du papier à lettres, pour la nourriture. Ça peut être pour les réceptions qui sont organisées, faire appel à des producteurs locaux. Voilà. Mais on est vraiment dans une action de, non seulement de relocalisation des achats des entreprises, mais en plus de création de liens. Et ça, c'est parce que nous, consommateurs, on injecte des achats dans le circuit. Derrière, le choix après fait son travail de mise en relation, de relocalisation, parce qu'il y a cette commission de 5% qui incite fortement les entrepreneurs locaux à se tourner vers les gens du territoire plutôt que de l'acheter par Internet ou en grande distribution. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les associations. Nous considérons les associations comme des acteurs économiques à part entière. Dans les 750 professionnels dont je parle, il y a 200 associations aujourd'hui. Et elles ont aussi des achats à faire, du papier, des réceptions à faire, des clubs de sport font des achats de t-shirts, voilà, il y a toujours des vrais acteurs économiques. Et souvent, les associations n'ont pas cette culture-là forcément du local. Même les comités des fêtes, quelque part, quand ils organisent, ils vont acheter le plus bas prix. Et nous, ce qu'on essaie d'insuffler comme état d'esprit, non, il ne faut pas acheter le plus bas prix, il faut acheter local. Il faut acheter de qualité, peut-être proposer moins, mais à un prix juste, mais voilà, avoir cet effet-là de relocalisateur pour tous. Voilà, donc j'expliquais en quoi on était un mouvement issu de la base, citoyen. Aujourd'hui, on est 3000 adhérents particuliers donc, au Pays Basque. Si on ramène ça à l'échelle de l'État français, ça veut dire, sur 65 millions d'habitants, ça voudrait dire qu'il y aurait 650 000 adhérents, donc au niveau de l'État français. Donc ça donne plus l'ordre d'idée, puisqu'on est 300 000 habitants au Pays Basque. On est, nous, à 1% de la population. Au niveau de l'État français, ça fait 650 000 participants à ce projet-là de relocalisation. Ça donne un peu l'échelle, je trouve, de ce qui se passe ici. Après, on avance en marchant. C'est-à-dire qu'on est parti avec une idée simple qu'on a imaginée, testée, c'est le terrain qui a répondu. Et on a construit cette idée en avançant avec une autre idée, par exemple, cette année a été marquée par un combat assez fort contre le préfet, puisqu'on a été, on nous a mis un peu des bâtons dans les roues. C'est un épisode qui a été assez marquant ici. En fait, depuis qu'on discute avec toutes les monnaies locales en France, il y a une cinquantaine de monnaies locales en France aujourd'hui, hein, puis on participe aux réunions locales. Et puis on se demandait, mais comment est-ce qu'on peut impliquer les collectivités locales? C'est des acteurs économiques majeurs, il faut qu'on puisse les impliquer dans la relocalisation. Et autant il était accepté que dans les régies municipales, les services publics locaux, c'est-à-dire les piscines, les médiathèques, les mairies puissent encaisser en monnaie locale et après convertir en euros, autant si une mairie veut payer en monnaie locale, ça, c'était pas du tout prévu. Et même les contacts qu'on avait au niveau politique disaient plutôt que c'est plutôt interdit. Donc les juristes qu'on avait interrogés étaient plutôt tièdes. Et donc il y avait cette idée-là de faire un plaidoyer à Paris pour essayer de faire changer les mentalités à Bercy. C'est quand même difficile à imaginer, mais les portes sont vraiment fermées sur ce sujet-là parce qu'ils ont, en gros, pour eux, les nouvelles cadres, c'est pas représentatif. Du coup, on n'a pas eu de porte ouverte. Il y a eu des tentatives. Ça a été une écoute polie, voire un peu hostile, et puis c'est tout. Et on s'est dit, au Pays Basque, on s'est dit peut-être qu'on peut faire autrement. On peut peut-être partir de la base, encore une fois. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas une mairie qui serait prête à nous suivre pour signer une convention avec nous pour le faire. On le fait, et puis si le préfet n'est pas d'accord, il nous mettra au tribunal administratif. Et puis si on perd au tribunal administratif, on ira en appel. Et puis si on perd en appel, on va aller en cour de cassation. On va se battre jusqu'au bout parce qu'on pensait que juridiquement le dossier était bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interdiction de le faire. Et on a travaillé avec les services financiers de la mairie de Bayonne qui a été prête à nous suivre. Et le service, le directeur financier de la mairie et les agents, avec nous, on a vraiment réfléchi, on a bossé, et on a trouvé une articulation juridique qui permettait de mettre en place ces paiements en monnaie locale. On a signé la convention, ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal, voilà, c'est un maire UDI qu'on a ici, à Bayonne, mais qui a vraiment joué le jeu, qui est un acteur pour le territoire. Et du coup, on a signé la convention, ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Tous les groupes politiques ont pris la parole pour se féliciter de cette initiative. Donc on est vraiment très content de ce côté-là, œcuménique de l'Hochefaux. C'est que c'est vraiment un projet pour le territoire dans lequel tout le monde se retrouve. Et par contre, comme prévu, le préfet a attaqué. Donc ce qui n'a pas prévu, c'est qu'on a gagné par contre en préféré, on a gagné au tribunal administratif de Pau. Donc c'est lui qui a fait appel. Donc là, on a été à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, là, on a perdu. En appel, il faut savoir que c'est en préféré, le moindre doute bénéficie au préfet. Donc ici, il a le moins. Et après, on va au fond. Et ça prend des mois et des années. Et voilà, parce que c'est une procédure d'urgence, en fait, ils ont la suspension de la convention. Donc, on a perdu en appel, et là-dessus, le maire de Bayonne a décidé d'aller en cassation au Conseil d'État. Et à ce niveau-là, de peur, on pense, d'avoir une jurisprudence qui se au niveau national, bah, le préfet a décidé de discuter. Donc, moi, ça fait 6 mois que j'avais demandé un rendez-vous, hein, pour le rencontrer, pour présenter ce qu'on fait, rendez-vous que j'avais jamais eu. Et on a été reçu au Conseil de service, avec la mairie de Bayonne, nous et le préfet. On s'est réunis à 3, et en une demi-heure, on a trouvé la solution. C'est-à-dire que ce qu'on proposait était bien légal et que tous les arguments qu'il avait avancés étaient fallacieux. Donc, ça permettait quand même d'avoir une négociation qui s'est très bien passée avec des craintes légitimes de leur part. Et par contre, il y avait deux vraies craintes de leur part et qu'on a tout à fait respectées, on en a tenu compte. La première, c'était qu'on avait écrit dans la convention paiement en escrow, paiement en monnaie locale. Et eux, ils ne voulaient pas que ce soit écrit parce qu'en fait, la mairie de Bayonne ne paye pas en monnaie locale, elle ne peut pas manipuler de fonds. En fait, il y a une obligation de dépôt des fonds au trésor en France et c'est très bien comme ça. Qui fait que la mairie demande au trésorier, au trésor public, de payer une entreprise, une association. Donc elle ne paye pas directement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la mairie demande au trésorier de payer jusqu'à mon état, qui va créditer le compte jusqu'au de l'entreprise. Donc ça passe par nous. La mairie ne paye pas monnaie locale. Donc ça, on a dit, il n'y a pas de problème, on enlève le terme paiement en jusqu'au de la convention, c'est tout à fait légitime. Et le gros crainte qu'ils avaient aussi, c'était sur les marchés publics. Ils avaient peur que ce soit un facteur de favoritisme. Et là, on leur a expliqué, mais ils ont fait le compte aussi, que là-dessus, c'était à eux de faire le travail. Il y a un code des marchés publics qui le font respecter. Si jamais il y a une entorse qui est faite, ben, c'est coupable. Donc, c'est à eux de faire respecter. Il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. Et à partir de là, ça a été mis en place. Et aujourd'hui, on travaille avec la mairie de Bayonne sur comment le mettre en place effectivement. Voilà. Aujourd'hui, parce que la transition écologique, c'est sur les territoires et que c'est maintenant qu'il faut la construire, mais pas que au Pays Basque. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait, on relocalise au Pays Basque qu'on va s'en sortir. Il faut relocaliser partout. La vision qu'on a, c'est que demain, les monnaies locales doivent être des outils à portée des citoyens, au même titre que les AMAP, que les paniers paysans, qu'on puisse en avoir partout, sur tout le territoire. Donc nous, étant donné qu'on est peut-être la monnaie qui a le plus de compétences et d'outils actuellement en France, on a créé un organisme de formation qui s'appelle l'Institut des monnaies locales. On reçoit 5 monnaies en décembre qui viennent de Strasbourg, de Chambéry, de Lyon, de Toulouse, qui vont venir se former à nos outils, à nos méthodes de campagne, parce qu'ici, on a réussi à créer un outil vraiment participatif qui arrive à mobiliser. Il y a des techniques pour ça, et on peut les partager. Et pour que y compris notre système de compte en banque, on a créé des comptes en ligne numériques aussi en un jour, ce qui a permis de faire vraiment développer la masse monétaire en circulation et de faciliter les échanges. Et tout ça, on met à disposition gratuitement les autres monnaies, parce que ça va être pris en charge par les fonds de la formation professionnelle. On va transmettre, voilà, parce que créer un outil, c'est bien, le diffuser, c'est encore mieux, mais créer l'outil qui permet de le diffuser de façon concrète et pratique, c'est encore plus important. C'est qu'on ne se contente pas de vouloir, on se dote des outils dont on a besoin pour faire les choses. Et puisqu'il me reste environ 30 secondes, je vais juste quand même répondre à Aurélie et peut-être aussi à quelque chose chez Clémentine qui m'a un peu fait tiquer. Clémentine, vous disiez, les monnaies locales et les AMAP sont des points d'appui décisifs. Aurélie, vous disiez, il ne faut pas se contenter des projets locaux. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça. Je pense que ça, c'est presque déjà aussi le monde d'avant, y compris dans les alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas opposer. Vous nous permettez de résister.
C'est ce qu'on dit.
Oui, mais quand on parle point d'appui, c'est un point d'appui pour... c'est la base, mais derrière, pour faire autre chose de plus haut. Non, les combats se mènent aussi bien au niveau de Paris, au niveau international, qu'au niveau local. C'est des fronts qui sont vraiment parallèles. Voilà, on a besoin les uns des autres, je pense. Je pense qu'il y a un côté qui est... On est d'accord ? Bon, très bien. Je tenais à le préciser quand même, parce que des fois, j'ai un peu l'impression que...
Non, mais on est d'accord.
Voilà, que nous, on est... on attend le grand soir. Et non, le grand soir, c'est le grand jour, c'est aujourd'hui, en fait. C'est ça que je voulais dire.
On est d'accord.
Très bien. Il ne faut pas attendre que demain, on puisse
le faire. Ah oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y a pas de grand soir s'il n'y a pas
de... Non, mais cette idée-là, pour préciser ma pensée.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Pour préciser ma pensée, j'ai un peu l'impression des fois qu'on est pris comme des points d'appui, justement. Mais qui c'est qui s'appuie sur nous pour faire quoi? On n'est pas un point d'appui, on est un objectif. C'est ça que je veux dire.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc, c'est ça, c'est...
Bon, en tout cas, merci Dante et bravo pour cette victoire que vous avez eue par rapport au préfet quand même, parce que c'est une victoire pour toutes les autres monnaies locales qui se mettent en place, et merci beaucoup. Peut-être, vous voulez peut-être préciser juste le petit problème de communication qu'il y a eu?
Non mais rapidement. Très rapidement, je vais faire plusieurs phrases juste pour qu'on ne joue pas sur les mots et qu'on se comprenne bien.
C'est-à-dire, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de transformation de la société sans mobilisation citoyenne. C'est-à-dire l'idée qu'il suffirait qu'un petit noyau prenne l'appareil d'État, appuie sur un bouton et puis ça marche, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand bien même demain, il y aurait une majorité, si elle n'a pas de soubassement dans la société profonde, il n'y a pas de changement. Donc peut-être le terme de point d'appui, moi je veux bien le réviser s'il a été mal compris, mais qu'on se comprenne bien. Changement de la société, il suppose les deux. Il suppose ce qui est fait progressivement, localement, par chacune et chacun, la prise de conscience, mais il suppose aussi, et ce n'est pas contradictoire, et il suppose aussi de modifier les politiques qui sont menées à l'heure actuelle, à la tête des États, à l'échelle européenne, internationale. N'opposons pas les deux, disons même le contraire, que l'un sans l'autre dans les deux sens, ça ne marche pas.
D'accord. Merci pour cette précision, Clémentine. Bon, ça va sur la table, on est bien tous d'accord.
Mais ça va bien, disons.
Mais c'est important hein, de se dire, hein, c'est un truc super important.
Surtout qu'il y en a qui ne pensent pas comme nous, en fait.
Ouais. D'accord. Des deux côtés, d'ailleurs.
Ne faites pas déborder le débat, s'il vous plaît. Donc, il nous reste encore 25 minutes. En gros, bon, bah, maintenant, on va faire tourner le micro dans la salle pour que vous posiez des questions ou vous ayez des réactions, mais très concises, s'il vous plaît. On va prendre 4-5 remarques, questions, s'il vous plaît, de la salle, parce que c'est une table ronde, en fait, donc du coup, c'est pas un débat en cercle. Donc, c'est parti. Yalla.
Deux questions rapides.
Il y a une femme qui a levé la main.
Sur l'abonné.
Il y a une dame là-bas.
Je voulais savoir, parce que vous avez parlé des conditions dans lesquelles les entreprises pouvaient adhérer
au SCO.
Parmi ces conditions, est-ce qu'il y a des conditions un petit peu sur...
Ça, c'est pour toi. Ah pardon, excuse-moi.
Est-ce qu'il y a des conditions sur un petit peu ce que produisent ces entreprises? Parce qu'on peut être local et faire de la merde. Donc, il faut quand même peut-être un petit minimum, je ne sais pas, j'imagine que c'est prévu. Et puis la deuxième question, elle est plus large, ça rebondit finalement sur le débat que vous avez eu à la fin. Moi, il me semble qu'on souffre aujourd'hui de cette problématique du fait que de nombreuses associations font beaucoup de choses localement, beaucoup de choses pour lutter contre le changement climatique, développer des initiatives locales, etc. Et se revendiquent de l'apolitisme. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas dire que ce qu'on fait, ça peut avoir un rapport avec la politique. Moi, ça me saoule, clairement, parce que toutes les bonnes actions qu'on pourra faire au niveau local, les actions citoyennes de résistance, il faut les faire. Mais si on n'a pas des leviers au niveau national, au niveau régional, au niveau international, pour faire véritablement bouger les choses dans le fond, eh bien, les deux ans qu'on a pour nous pour faire la révolution, quelque part, puisque c'est celle qui est nécessaire, ça ne suffira pas. Hein. Donc, il faut aussi ces leviers-là, et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de savoir s'appuyer sur les
leviers. Merci.
On va adopter une règle de parité dans la prise de parole. Donc voilà. Et juste, on va prendre quatre questions et après on enchaîne. Voilà, merci.
Mais il me semble que la deuxième question, elle a été dit par Maxime Pond hier, c'est effectivement ça. C'est, vous l'avez traité là en comme c'était périphérique.
Alors, c'est
en fait, c'est crucial aujourd'hui en France d'arrêter, d'essayer ce week-end de faire tomber un certain nombre de malentendus et de méfiances réciproques entre des associatives, des gens sur le terrain qui font des choses et les politiques qui font des choses. Parce que, comme vous l'avez dit, je répète, on a besoin de l'un et de l'autre, c'est complémentaire. Ce qui nous navre, c'est les gens qui s'abstiennent, qui ne vont pas voter. Parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Il y a des militants d'Alternativa, je suis navrée, et ils ne vont pas voter. Quoi. Ils sont super militants, et ils ne vont pas voter.
Bonjour, je vous remercie beaucoup de la qualité des interventions. Et par contre, j'aurais une question sur... se mettre vraiment aussi en tête que la finance et la nouvelle mentalité des États est en train de créer un monde au-delà des échanges humains. Et ça, c'est une catastrophe actuelle en cours.
Ah oui, oui,
donc ça, comment c'est... réhumaniser notre,
oui, 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 on est bien d'accord.
Notre gouvernance, etc. Merci. Donc on prend une dernière intervention. Donc on adopte une règle paritaire, donc les filles... Bah, les filles prennent le pouvoir, quoi. On vous donne le pouvoir, là, on peut lever la main. Ok, donc bah, y a un monsieur qui a levé la main derrière. Ah, si, bah,
monsieur
si,
là-bas,
il y a une dame là d'abord.
Bah, non, mais il y a une dame qui a levé la main, voilà.
Relocaliser et consommer local, souvent, moi j'ai dans les oreilles un retour qui me dit c'est pas facile parce que ça coûte cher. Donc, comment redonner les moyens de consommer localement?
Eh oui. On va faire un premier tour de réponse. On les fait dans l'ordre, peut-être reparler donc, de le choix des conditions locales.
Oui. Alors, sur la question de la qualité de ce qui est produit, pour nous, la question se pose au niveau des enjeux du territoire. À chaque territoire, ses enjeux. Nous, on a deux gros enjeux ici, c'est l'agriculture paysanne. On a un territoire de montagne, moyenne montagne, avec beaucoup d'agriculture paysanne, un mouvement qui est assez fort et structurant. Donc nous, en termes d'agriculture, on est très sélectif sur les paysans qui rentrent dans le chaud. Et ça nous est parfois reproché par les paysans qui nous disent « Oui, mais vous prenez aussi des marchands de téléphones portables fabriqués en Chine. » C'est vrai, mais il n'y a pas de fabrication de téléphones portables en Chine, au Pays Basque. Et c'est pas, on peut pas être surtout la question des droits sociaux, la question de l'ultralibéralisme, d'autres, on va participer à d'autres luttes, mais ce n'est pas celle de la monde locale, pour, par exemple, pour cet objet-là. On reste sur des territoires qui sont aussi de commerce de proximité face à la grande distribution. La grande distribution aujourd'hui, ici, est surdéveloppée. Elle écrase, comme dans beaucoup de territoires, les commerces de proximité. Ça peut fermer dans les villages. Et nous, on veut maintenir le cadre de vie, la vie dans les villages, la vie dans les quartiers. Et donc, on n'accepte pas la grande distribution des hypermarchés dans les accepteurs de monnaie locale. Et on va privilégier le commerce de proximité. Voilà, parce que là, il y a une logique d'emploi et une logique aussi de cadre de vie et de lien social qui est très important. Et ça nous permet aussi de... Voilà, autre chose très importante, c'est que ça nous permet quand même... Le SCO permet aussi de construire des alliances, justement, entre écologistes, entre intermondialistes, entre commerçants. Voilà, on essaie de sortir du cercle. Ce qui fait que, contrairement à d'autres monnaies locales, on ne demande pas un blanc-seing à l'entrée. On prend les gens tels qu'ils sont, tant que ce n'est pas la grande distribution de l'agriculture industrielle, et on leur impose ces défis pour les faire bouger. C'est qu'on les prend avec nous pour après discuter avec eux et les amener quelque part. Et on trouve que ça, c'est important d'être inclusif pour construire les alliances de demain, parce que sur le territoire, il va falloir être avec les TPE, avec les PME, avec tout le monde. Donc on est vraiment dans cette logique-là au Pays Basque. Et puis, voilà, une autre façon, c'est de participer sur une manière plus globale. Je parlais de l'idéalisme. Alors, l'idéalisme, c'est que quand aujourd'hui on va atteindre, j'espère, avec vous, 1 million de chevaux en circulation, ça veut dire que nous, on réserve dans 1 million d'euros.
Merci.
Et c'est ce million d'euros-là, on ne l'a pas dans une banque spéculative, on l'a à la nef au crédit coopératif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez des chevaux en chevaux, non seulement vous avez 100 chevaux en main pour changer concrètement le visage du Pays Basque de demain, mais en plus vous avez enlevé 100 euros à votre banque classique, à moins que vous ne saviez pas, et ces 100 euros sont allés plutôt nourrir une banque éthique. Et ça, si on est 30, 50, 100, 200 monnaies sur le territoire français à faire ça demain, avec 1 million, 3 millions, 4 millions en circulation, ça va faire des masses considérables qui vont aller irriguer l'économie productive, locale et responsable. Voilà, ça c'est important aussi.
Merci. Merci. Peut-être Clémentine sur l'appui citoyen.
Sur
la question stratégique.
Ah, je voulais répondre sur autre chose. Mais
Si tu veux sinon répondre sur autre chose, vas-y.
Aussi, je peux faire deux rapidement. Alors, ok.
Je suis d'accord sur le fait que la question stratégique est tout à fait centrale. Mon intuition, mais c'est pas, il faudrait l'étayer, mais mon intuition, c'est qu'il y a eu quand même toute une période où les syndicats ou le tissu associatif étaient vécus justement comme le bras armé de la politique. C'est-à-dire, en gros, il y avait le bureau politique qui décidait et on demandait aux syndicats, aux associations, aux citoyens de suivre. Puis il y a une autre période, qui est plutôt ma génération, celle autour de 95, du mouvement de 95, où il y a une affirmation du mouvement social et une défiance énorme à l'égard de la politique. Et où on avait l'impression que le mouvement social était supérieur à l'espace politique et que l'espace politique ne pouvait plus rien. Mon intuition est qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle séquence où il y a une prise de conscience qu'il ne doit pas y avoir de domination de l'un sur l'autre entre le social et le politique, je fais court, hein, qu'il doit y avoir la possibilité d'une articulation nouvelle. Et quand je dis articulation nouvelle, ça veut dire justement pas un supérieur à l'autre, ça veut pas dire un lien qui serait dans l'articulation, qui serait un lien organique, mais qu'il y a bien des mouvements qui peuvent se nouer ensemble vers des objectifs qui sont des objectifs communs dans le respect de la spécificité de chacun. Et donc cette nouvelle, j'ai même du mal à l'énoncer parce que je pense que chacun va essayer de déceler quelque chose que j'aurais dit ou point d'appui et on s'entend pas. Donc je le dis voilà, avec ces premiers mots, mais parce que j'ai l'impression qu'on est en train de chercher quelque chose de nouveau dans cette articulation et qu'on voit bien le problème stratégique et à mon avis il est là. L'autre chose que je voulais dire, c'était sur la question des... Parce que tu en as parlé, et c'est fondamental, le commerce de proximité et l'idéal du centre commercial dans leur monde. C'est-à-dire que le centre commercial, pour moi, c'est vraiment... non, mais je vous jure, boycott. Vous avez peut-être lu ce livre de Lola Lafont sur la petite communiste qui ne souriait jamais. Et bien, c'est sur Nadia Comaneci, et il y a la mère de Nadia Comaneci qui arrive pour la première fois en France et qui rentre dans un centre commercial, un immense centre commercial, et elle pleure. Alors, évidemment, l'occidentale de base qui lit oh, la pauvre et toute la misère qu'il y a dans les pays de l'Est, elle pleure parce qu'il y a tant de choses merveilleuses. Et bien non, elle pleure de la vacuité de cet espace. Et bien, voilà, je pense que là, on tient un fil, qui est aussi Annie Ernaux qui a fait tout un livre sur les centres commerciaux, de la vacuité de ce monde. Et donc, le commerce de proximité, c'est une autre logique. C'est-à-dire, moi, dans mon territoire, 150 000 habitants, il n'y a pas une librairie. Zéro, c'est fini. Les bars, les cafés, c'est epsilon, ça ne tient pas. Si vous voulez acheter des choses, juste la vie, je ne sais pas quoi, le soir, c'est mort. Trois grandes villes, 150 000 habitants. On est devant un problème. Et quand je dis le droit à la ville, c'est ça. Donc il faut des mécanismes, qui sont des mécanismes qui permettent justement de répartir autrement les richesses et de faire vivre ces lieux de sociabilité et de faire vivre des commerces qui ont du sens, parce que ce sens, il est le sens, je le disais pour les librairies, de la culture, mais il est le sens aussi de la vie au quotidien, de pouvoir se rencontrer là, de faire ses courses avec ceux dont on a besoin pour vivre. Voilà.
Merci. Aurélie, sur la vie chère, qu'est-ce que tu peux me dire sur le coût cher?
Ben, en fait, c'est toujours l'argument des néolibéraux de dire que si on se protège, on va augmenter le prix des produits. Et donc, en fait, c'est les classes plus pauvres qui vont déguster. Alors déjà, cet argument suivant lequel, par exemple, manger du prix plus cher, déjà, il faut le discuter. Il y a une étude de l'INSERM qui montre que les gens qui mangent bio, entièrement bio, en fait, ça leur coûte moins cher. Non, mais je vais y arriver. Ça leur coûte moins cher parce qu'on achète moins de transformés, parce qu'on achète moins de carnets, etc. Parce que c'est un mode d'alimentation. Par contre, là où il y a une sélection, là où il y a une vraie sélection, c'est une sélection socio-culturelle. Et effectivement, aujourd'hui, c'est clair que ceux qui mangent bio, c'est aussi des classes socio-culturelles et du coût financier très élevé. Et du coup, j'entends bien. C'est clair qu'aujourd'hui, manger bio, c'est réservé à une élite socio-culturelle, dont beaucoup ici font partie. Mais j'y arrive, je vois les débats, j'y arrive, c'est qu'il ne faut pas condamner, il ne faut pas dénoncer le bio ou quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un partage des richesses, et c'est là que la question sociale, elle est décisive, c'est qu'on devrait avoir un partage des richesses qui permet à tout le monde de manger bio, de toute façon. Ça veut dire aussi que dès la maternelle, il faut qu'à la cantine, on oblige toutes les cantines à être entièrement bio et en produits locaux pour qu'il y ait une formation, une éducation à une autre forme d'alimentation dans toutes les couches sociales. Moi, mes gamins, ils mangent bio. Donc évidemment, la cantine, à la limite, bon, bah, ils ont un repas par jour qui n'est pas bio, merdique, en plus dans des plastiques réchauffés, je vous place le détail. Mais à la limite, je me dis qu'ils ont un repas bio, moi, le matin et le soir. Mais une cantine bio, ça ne sera pas pour... en l'occurrence, moi je suis à Montreuil, la cantine bio, ce ne sera pas pour... parce qu'on nous dit c'est un truc de bobo, mais ça ne sera pas pour les bobos du bas Montreuil, ça sera surtout pour tous les enfants qui n'ont même pas la possibilité de manger un seul repas bio dans toute leur semaine. Et c'est là que c'est une... Ben pour moi, c'est là que ça devient éminemment social. C'est-à-dire que de permettre à tout le monde de manger bio, il y a des leviers. Un, il y a le partage des richesses avec une fiscalité complètement autre. Et deux, eh bien, il y a aussi des moyens de permettre, par exemple, avec une cantine gratuite bio en produits locaux, avec une vraie formation, et ça existe dans plein de communes, eh bien ça, on pourrait le généraliser à l'ensemble de la France, et déjà, ce serait un énorme levier. Tout ça pour dire que la transition écologique, elle doit absolument s'articuler à la transition sociale, je suis d'accord avec ça, et qu'effectivement, il faut faire attention aussi que toutes ces alternatives locales, elles ne soient pas limitées à une certaine couche de la population. Et donc c'est là qu'on en revient, et je finis là-dessus, à la question, je suis désolée si tu l'as mal pris, hein, sur les leviers, mais pour moi je veux bien être un levier, hein. Je veux bien qu'Attac soit un levier, je veux bien qu'Alternativa soit un levier, je veux bien que les monnaies locales soient un levier. Pour moi, c'est noble d'être un levier. Et aujourd'hui, je pense que sans ces alternatives locales qui se développent, qui dessinent aujourd'hui un autre monde possible et nécessaire, eh bien, il n'y aura pas d'autre monde sans ça.
Exactement.
Et qu'on dessine déjà aujourd'hui un autre système au niveau local, mais qu'il faut absolument que ça change les règles. In fine, au niveau national et international, si on veut que tout le monde en profite, et pas seulement ceux qui ont accès aujourd'hui.
Merci. Bon, désolé, on ne pourra pas faire un deuxième tour, parce qu'il est déjà l'heure. Pour peut-être un petit tour de conclusion, petite phrase de conclusion peut-être pour... En tout cas, en 30 secondes, ça va être peut-être... Non, on va arrêter là, je pense que tout a été dit. Peut-être juste ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que les monnaies locales par rapport à la réhumanisation... Voilà, peut-être deux mots là-dessus.
C'est en 20 secondes. 95-97% des euros en circulation dans le monde servent à des échanges financiers uniquement. 3% à 5% servent à l'économie réelle. 100% des logements en circulation servent l'économie réelle. Donc changez vos euros en euros, ça sera bien mieux.